Excellent réveil, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La mobilisation entamée par les urgences cette semaine s'étend aux hôpitaux. À Paris, les 8 syndicats appellent à la grève jusqu'à samedi. Ils dénoncent les manques d'effectifs face à l'afflux de patients, face à la violence toujours plus grande. Nous y reviendrons dans un instant.
Et puis nous nous interrogerons ensuite sur les possibilités pour reconstruire la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Faut-il la refaire à l'identique ou se permettre d'innover?
De la prison ferme pour deux jeunes hommes. Ils avaient participé aux violences contre des Rome en Seine-Saint-Denis. Nous étions au procès hier.
Et puis, dans ce journal, nous irons aussi en Amérique latine. Un ancien président du Pérou s'est suicidé hier. Il était accusé de corruption, une affaire à plusieurs dizaines de millions de dollars.
Et puis, à quoi joue la Corée du Nord? Elle a testé hier une nouvelle arme tactique. Réaction des États-Unis. Après cette édition, dans un quart d'heure dans le billet politique, Stéphane Robert se demandera s'il faut supprimer l'ENA. Emmanuel Macron ne voudrait pas de fermeture d'hôpitaux jusqu'à la fin de son quinquennat. Le personnel hospitalier s'inquiète en réalité, lui, des fermetures de services, des suppressions d'emplois, des plans d'économie. Une fatigue générale qui pousse les 8 syndicats de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, la PHP, à déposer un préavis de grève. Il sera effectif ce soir jusqu'à samedi dans tous les services des établissements hospitaliers. Une grève illimitée est déjà suivie depuis dimanche dans les urgence après une 8e agression physique à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. La 8e en 4 mois, Tarache Legal.
Oui, la violence est malheureusement quotidienne aux urgences et elle n'explique pas seule la colère du personnel, souligne Christophe Prudhomme qui est délégué CGT.
Les agressions, on en a régulièrement, c'est pas ça, c'est surtout le mépris de la direction qui n'a absolument pas, comme c'est prévu dans le cadre de protocoles qui ont été définis nationalement, accompagner les personnels qui avaient été agressés. Il est prévu que ces personnels doivent être accompagnés par un responsable administratif au commissariat pour porter plainte. Il doit bénéficier de ce qu'on appelle la protection fonctionnelle, une aide psychologique. Là, imaginez-vous, les deux collègues qui avaient été agressés fin janvier ont été obligés de commander un Uber et de se rendre seuls au commissariat pour porter plainte.
Sentiment de mépris analyse donc les syndicats, mais aussi sous-effectifs chroniques. Ils ont calculé qu'il faudrait embaucher 700 personnes pour assurer convenablement la sécurité des malades aux urgences de l'APHP, s'indigne le docteur Prudhomme lui-même, urgentiste à l'hôpital Avicenne.
De mettre un petit peu plus pour les hôpitaux qui ont été mis sous pression ces dernières années, c'est pas demander la lune. Vous voyez, en ce qui concerne, par exemple, les lits d'hospitalisation, on demande à ce qu'on arrête de supprimer des lits et de fermer des services. Parce que quand les gens restent sur des brancards parce qu'on manque de lits pendant 12 heures, 24 heures, voire plus, eh bien, ça entraîne une surmortalité. Nous avons des études françaises et internationales qui ont été publiées il y a déjà plusieurs années et qui montrent que quand les services d'urgence dysfonctionnent, il y a une surmortalité tous patients confondus de 9% et pour les patients les plus graves, une surmortalité qui peut atteindre 30%. Donc la situation est grave.
Mais pour l'instant, l'heure est surtout aux économies. La direction de la PHP prévoyait de supprimer 779 postes avant la grève.
Précisons qu'il y a aujourd'hui 22 millions de passagers de passage aux urgences en France, 22 millions contre 12 il y a 15 ans. La violence et le manque de moyens. Hier soir, le syndicat de police Alliance s'en inquiétait également lors de son congrès national. Il craint un possible retour des casseurs, des black blocs ce samedi lors de la mobilisation hebdomadaire des Gilets jaunes. Le nouveau secrétaire général du syndicat a proposé hier au ministre de l'Intérieur la mise en place d'états généraux de la police nationale. Une responsabilité historique. C'est ainsi que le Premier ministre a évoqué la reconstruction d'une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris après l'incendie qui l'a touchée lundi soir. Pour ce qui est de la flèche qui s'est effondrée et qui avait été dessinée au XIXe siècle par Eugène Viollet-le-Duc, Édouard Philippe annonce un concours international d'architecture. Si toutes les propositions sont pour l'instant les bienvenues, il faudra tout de même répondre à deux questions. Faut-il effectivement reconstruire la flèche de la cathédrale? Et si oui, faut-il la refaire à l'identique, Théo Conscience?
Pour l'arrière-arrière-petit-fils de Viollet-le-Duc, la réponse à la première question est évidente. Reconstruire la cathédrale sans la flèche serait l'amputer, a-t-il estimé. Cette flèche de bois était en effet l'un des symboles de Notre-Dame de Paris et on imagine mal le gouvernement snober tous les projets qui lui seront présentés à l'issue du concours international d'architecture. Reste la question de l'aspect de cette nouvelle flèche. Doit-elle être identique à celle qui s'est effondrée ou être adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque, comme l'a suggéré Édouard Philippe? La première solution, à l'identique, est celle de la doctrine habituelle en matière de monuments historiques. Mais la seconde ne trahirait pas forcément l'identité de la cathédrale. Au fil des ans et des rénovations, Notre-Dame a intégré des matériaux et des styles d'époque différentes. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Viollet-le-Duc avec sa flèche, en inventant des formes qui n'étaient pas celles du XIIIe siècle, comme l'a fait remarquer Jack Lang. C'était en 1853, et comme aujourd'hui, un concours avait été organisé pour la construction de cette flèche. Déjà, des propositions émergent. L'architecte Jean-Michel Villemotte verrait bien une flèche en verre, en écho visuel à la pyramide du Louvre. Une référence qui n'est pas anodine quand on sait que certains voient dans ce concours la volonté d'Emmanuel Macron de laisser sa marque dans le patrimoine historique français, comme avait pu le faire François Mitterrand avec justement cette fameuse pyramide de verre.
Voilà pour les projets sur le papier. Comment ensuite redessiner l'ensemble de la charpente et du toit de la cathédrale en respectant l'ancienne architecture? Pour cela, le travail d'un chercheur américain pourrait être précieux. Andrew Talon est décédé en novembre dernier. Il était professeur d'art au Vassar College près de New York. Il était aussi francophile, passionné d'architecture médiévale et il a cartographié la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les données ont commencé à être répertoriées, hasard du calendrier, une semaine avant l'incendie à Paris. Et le résultat est d'une extrême précision, Loïc Loury.
Une carte numérique complète de Notre-Dame de Paris, voilà ce que nous laisse Andrew Talon. Derrière ce projet, le rêve d'un professeur, comprendre comment de tels édifices ont été construits il y a plus de 800 ans, il s'en expliquait pour National Geographic.
Malheureusement pour moi, il n'y a pas de trace écrite. Les maçons ne faisaient pas de pause en fin de journée pour dire « je construis ma cathédrale de telle façon, pour telle raison ». Alors j'ai commencé à utiliser la technologie pour tenter de faire parler les murs.
Grâce notamment à des lasers, il a donc mesuré la moindre distance à l'intérieur de Notre-Dame, de chaque mur à chaque pilier, statue ou sombre recoin. Le résultat est un nuage de plus d'un milliard de points et une précision de quelques millimètres. Lindsay Cook, aujourd'hui professeur à Vassar, fut son étudiante.
L'objectif d'Andrew était de comprendre en profondeur la structure des monuments gothiques. Il s'intéressait vraiment au fait d'entrer dans l'esprit des maîtres maçons du Moyen-Âge.
Un travail essentiel, dit-elle, bien au-delà de la nef de la cathédrale parisienne.
Cette mission avait pour but de montrer comment, avec le temps, alors que le gothique devenait le gothique, que l'art gothique émergeait, la France, elle aussi, devenait la France.
Et cette masse de données inestimable sera volontiers partagée pour la reconstruction de Notre-Dame.
Une reconstruction qui se fera grâce aux dons venus des entreprises, des hommes et femmes d'affaires et des particuliers. Les promesses atteignent près de 850 millions d'euros. Hier, le Premier ministre annonçait une aide pour les personnes physiques dont les dons sont inférieurs à 1 000 euros, une aide de réduction fiscale de 75%. Les dons, justement, et plus largement, les grandes fortunes en France, anciennement assujetties à l'ISF, ont moins donné l'année dernière. Le montant moyen de leurs dons a d'ailleurs atteint son plus bas niveau depuis 2014, selon l'Institut Ipsos ce matin. Rappelons que l'année dernière, l'impôt sur la fortune a été remplacé par l'impôt sur la seule fortune immobilière. Moins d'impôts et donc moins de défiscalisation. Revenons maintenant au tribunal de Paris, de Bobigny, pardon, au tribunal de Bobigny où étaient jugés hier 4 hommes pour avoir participé à des violences visant la communauté rome à Clichy-sous-Bois. C'était le 25 mars dernier, après des rumeurs d'enlèvement de mineurs diffusées sur les réseaux sociaux. Hier donc, au terme de l'audience à Bobigny, l'un a été relaxé, les autres ont été condamnés à de la prison, de 8 mois avec sursis jusqu'à 10 mois ferme. Antoine Marette était présent.
Les 4 jeunes âgés de 18 à 21 ans restent interdits à l'annonce du jugement. L'un d'entre eux, condamné à de la prison avec sursis, ne comprend pas la peine prononcée. Il demande à la présidente s'il va passer la nuit en prison. Elle le rassure. Elle lui explique que la justice a prononcé à son égard un avertissement. Un seul est immédiatement incarcéré. Il est reconnu coupable d'avoir lâché son chien sur des roms en criant « Vas-y, attaque ». Tous ont nié l'intégralité des faits. Ils étaient là par hasard. Ils se sont rapprochés du groupe qui attaquait des Roms par simple curiosité. Le tribunal ne croit pas à cette version pour 3 d'entre eux. Une des avocates de la défense, Maître Chegrazia, ne cache pas sa stupéfaction.
Est-ce du droit? Est-ce de l'exemple? Honnêtement, je n'en sais trop rien. Je pensais intimement qu'il serait relaxé. Néanmoins, il y a un aléa, l'aléa judiciaire qui existe. Là, on avait un autre aléa, c'était ce phénomène sociétal qui existe depuis ces dernières semaines et qui, hélas, m'échappe à mes confrères, échappe aux juges qui essayent de faire au moins et qui essayent de combiner les intérêts de tout le monde. Les intérêts de cette communauté qui a vécu des moments sombres, c'est une réalité. Et de ces petits jeunes qui se sont retrouvés là, par hasard ou pas, j'en sais trop rien. Ils étaient là, j'ai presque envie de vous dire, parce qu'ils ont vu de la lumière. Mais après, ils vont se rendre compte que ce genre d'attroupement, en réalité, ça peut peut avoir des conséquences bien graves, même lorsqu'on se retrouve là par hasard.
Trois des quatre hommes sont condamnés pour des violences et pour certains pour avoir résisté aux fonctionnaires de police. En revanche, aucune peine n'est retenue pour leur possible participation à la formation d'un groupe en vue de préparer des violences.
À la cour d'appel de Paris, le verdict est attendu aujourd'hui. Sont jugés Abdelkader Merah, le frère de Mohamed Merah, auteur des attaques à Toulouse et Montauban, ainsi que Feta Malki, lui aussi accusé de complicité. Le premier risque la perpétuité, le second entre 15 et 20 ans de réclusion. Et puis en bref encore, Florence Parly était ce matin chez nos confrères de Radio Classique. La ministre des Armées affirme ne pas avoir de preuves permettant de dire que des armes françaises sont à l'origine de victimes civiles au Yémen. Une enquête de Radio France et du média Disclose affirme pourtant que 35 civils sont morts au Yémen dans des bombardements à portée de canon français. Les précisions sont à retrouver sur notre site franceculture.fr.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Un ancien président péruvien s'est suicidé hier.
Oui, juste avant qu'il ne soit arrêté par la police, Alan Garcia était soupçonné de corruption avec l'entreprise Odebrecht, une entreprise brésilienne qui a reconnu avoir versé 29 millions de dollars de pots de vin au Pérou entre 2005 et 2014, notamment donc quand Alan Garcia était président du Pérou. Il a voulu échapper à la police hier en se donnant la mort, Eric Sanson.
Le Pérou est encore en état de choc et le président Martin Vizcarra a décrété 3 jours de deuil national. Le corps d'Alan Garcia, âgé de 69 ans et père de 6 enfants, est arrivé hier soir dans les locaux de son parti, l'Alliance Populaire Révolutionnaire Américaine. Il sera veillé toute la nuit par ses proches et ses partisans qui ont jeté des fleurs blanches sur le cercueil à son arrivée. Alan Garcia était accusé d'avoir touché des pots de vin du géant brésilien de la construction Odebrecht pour lui faire obtenir le contrat de la première ligne de métro de Lima. Les principaux dirigeants d'Odebrecht ont signé un accord de remise de peine avec le parquet péruvien en échange de leurs témoignages. Selon eux, ces paiements passés par des fonctionnaires très proches d'Alan Garcia, comme Luis Nava, ex-secrétaire général de la présidence durant son deuxième mandat, ou encore l'ex-vice-président Miguel Atala. La veille de sa mort, dans une entrevue avec Radio Programas del Perú, Alan Garcia a protesté encore de son innocence en parlant de spéculation. En fin d'année dernière, il avait tout de même essayé d'obtenir l'asile en se réfugiant dans l'ambassade d'Uruguay à Lima. Il ne l'avait pas obtenu et avait été interdit de quitter le pays pendant 18 mois.
Pour la première fois depuis l'échec du deuxième sommet entre le Nord-Coréen Kim Jong-un et l'Américain Donald Trump, Pyongyang se vante d'avoir testé une nouvelle arme tactique. L'annonce a été faite hier soir alors que les négociations sur la dénucléarisation de la péninsule semblent patiner avec les Américains. La menace semblait toutefois minime hier, Grégory Phillips.
Le Pentagone n'a pas repéré le tir en temps réel, ce qui laisse entendre que l'arme testée était de courte portée, volait sans doute à une altitude inférieure à 500 mètres et qu'il ne s'agissait ni d'un missile balistique ni d'un missile nucléaire capable de frapper le territoire des États-Unis. Néanmoins, c'est la première fois depuis l'échec du sommet de Hanoï que Pyongyang annonce ainsi un test grandeur nature. Cet essai intervient alors qu'il y a une semaine, Donald Trump assurait avoir encore une très bonne relation avec Kim Jong-un et le président des États-Unis envisageait même un troisième sommet avec le dirigeant nord-coréen. Pour les experts américains, cet essai correspond à la volonté de la Corée du Nord de tester ses batteries sans risque de représailles et sans contrevenir au moratoire sur les essais de missiles intercontinentaux. Le dernier remonte à novembre 2017. C'est une manière aussi de peser sur les négociations avec Washington et de montrer que malgré les sanctions, le régime continue à développer son armement.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. La haine des journalistes a dégénéré en violence, prévient ce matin Reporters sans frontières, la haine contre les journalistes. Reporters sans frontières qui publie son rapport 2019 sur la liberté de la presse dans le monde. Seulement un quart des 180 pays et territoires étudiés affichent une situation bonne ou plutôt bonne. Il y a certes quelques bonnes surprises comme l'Éthiopie qui a fait un bond de 40 places. En revanche, RSF s'inquiète de la dégradation en Europe, Valérie Crova.
En témoignent les meurtres l'an dernier de 3 journalistes en l'espace de quelques mois à Malte, en Slovaquie et en Bulgarie. Une digue a-t-elle cédé ? Interroge Reporters sans frontières qui cite l'exemple du Monténégro, pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, où une journaliste spécialiste du crime et de la corruption a été blessée par balle l'an dernier. Il a fallu plusieurs mois aux autorités pour arrêter ses agresseurs. Que dire de la Pologne, qui recule pour la 4e année consécutive dans le classement de RSF? Des journalistes sont menacés de peine de prison pour avoir mis en cause le chef du PiS, le parti au pouvoir, impliqué dans une affaire de construction douteuse. Que dire aussi de la Hongrie, où certains journalistes n'ont plus le droit de poser des questions lors des conférences de presse parce qu'ils n'appartiennent pas aux médias considérés comme amis par Viktor Orban, et RSF de dénoncer la rhétorique anti-média qui fleurit dans de nombreuses démocraties dont la France, où des leaders politiques n'hésitent pas à menacer certains journalistes, à les insulter et à les déclarer persona non grata.
Excepté des nuages et quelques gouttes de pluie sur le sud-ouest aujourd'hui et notamment sur les Pyrénées, le temps s'annonce bien ensoleillé avec des températures en légère hausse. Il fait ce matin 14 degrés à Besançon, 16 à Lille, Nantes et Bordeaux, 17 degrés en région parisienne et à Lyon, 19 à Marseille ce matin. Et